Monsieur le ministre Albert Mokomi Yaloké, bonjour.
Bonjour.
Le président de la République a effectué un déplacement à Abu Dhabi, après c'est Istanbul. Est-ce que cela constitue des nouveaux axes pour la République centrafricaine?
Mais effectivement, le président de la République vient de faire un long voyage qu'il a conduit dans les Émirats Arabes Unis. Il a continué à Istanbul, en Turquie. S'il faut faire rapidement le tour d'horizon de ce qui s'était passé à Dubaï, c'est qu'il y a eu une exposition universelle où la République centrafricaine faisait partie des pays invités. La manière dont ils ont organisé cette exposition était que chaque pays hôte avait un pavillon. Et dans ce pavillon, l'occasion était très belle pour présenter les potentialités d'affaires qu'on pouvait faire en République centrafricaine. Notre volonté, c'était d'intéresser plutôt les investisseurs potentiels qui pouvaient découvrir par cette occasion la République centrafricaine et découvrir les opportunités d'affaires dans plusieurs domaines, hein, que ce soit le domaine du commerce, de l'agriculture, de l'exploitation des matières premières. Hein, c'était cette occasion que nous donnons à travers ce pavillon qui nous était donné.
Ceci étant, la République centrafricaine table sur le secteur minier pour essayer de vendre et offrir à ces pays l'opportunité d'investissement.
Pas essentiellement. Vous pouvez comprendre que ils sont intéressés aussi par des matières premières comme les matières agricoles. Ils sont intéressés aussi par le commerce, le développement du commerce dans notre pays. Et ce sont des pays qui sont très avancés en matière d'infrastructure, notre pays.
Si vous parlez des infrastructures, vous faites allusion à l'aéroport.
Aux routes, je fais appel aux routes. Je fais appel aussi à des hôtels, à des écoles, à des centres sanitaires, à des hôpitaux, voilà. Et ils considèrent que la République centrafricaine offre beaucoup de potentialités, d'opportunités d'affaires. Et c'est la première fois qu'au cours de cette exposition universelle, la République centrafricaine soit représentée au plus haut niveau, puisque le chef de l'État lui-même a conduit la délégation. Et à côté de cela, la volonté était très forte de développer la coopération bilatérale.
Mais dès lors que ces pays n'ont pas de représentation formelle ici dans le pays, est-ce que cela ne contraste pas avec la priorité?
Nous sommes à l'ère de la technologie. Et à l'ère de la technologie, on peut se parler en vidéoconférence, au téléphone, et toutes les possibilités s'offrent à nous aujourd'hui. C'est vrai. Nous sommes un pays enclavé, nous n'avons pas de desserte régulière aérienne pour couvrir notre pays. Et vous allez voir que, aussi bien après ce voyage qui est dans les Émirats Arabes Unis, le chef de l'État s'est déplacé dans un autre sommet, Turquie-Afrique. Et là aussi, d'autres possibilités s'étaient offertes à nous. Pourquoi la Turquie? La Turquie est un pays dans lequel la Turquie est très intéressée par la République centrafricaine. Malheureusement, comme vous le disiez, nous n'avons pas de représentation en Turquie et la Turquie n'a pas de représentation ici, au niveau des ambassades, au niveau ni des consulats. Voilà pourquoi, en marge justement de ce sommet Turquie-Afrique, le chef de l'État, avec tous les ministres et avec tous les hommes d'affaires qui l'ont accompagné, ils ont eu des discussions très fortes. Cette discussion aboutit à des conventions, à des engagements très très forts.
Justement, en ce qui concerne les conventions, le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue Tayyip Erdogan. Est-ce que la question de défense et de sécurité a été au centre de préoccupation?
Ce que je peux dire, c'est que dans ce sommet, la Turquie veut offrir aux pays africains qui étaient présents la possibilité de développer le commerce avec eux. Développer le commerce parce que la Turquie est très développée sur le plan industriel, fabrique beaucoup de produits finis qui peuvent intéresser la République centrafricaine et la Turquie aussi est intéressée par nos ressources agricoles, nos ressources minières. Et à ce niveau, Turkish Airlines est une compagnie aérienne turque qui va jusqu'à Douala. Et comme nous sommes grands acheteurs, nous fournissons de beaucoup de matières, de produits industriels en Turquie, les marchandises arrivent à Douala, traînent pendant une semaine ou deux avant que ça soit acheminé sur Bangui. La discussion a porté sur ce sujet et la volonté des deux pays, c'est de prolonger de Douala jusqu'à Bangui pour que Turkish Airlines arrive à Bangui. Comme ça, nous pouvons travailler de concert avec eux, envoyer nos produits en Turquie et que la Turquie commerce avec nous aussi pour envoyer ses produits en République centrafricaine.
Dans un élan de restriction, l'Union européenne a mis un coup d'arrêt à sa formation aux forces de défense et de sécurité. Et cela s'élargit aussi à travers l'accord à peu près que la Centrafrique a avec l'Union européenne. Est-ce que cela vous inquiète?
Mais c'est une décision que nous déplorons. Nous déplorons cette décision puisque l'Union européenne est un partenaire très important de la République centrafricaine et à plusieurs niveaux. Et c'est vrai que concernant le problème de sécurité qui s'est posé à nous, ça fait depuis 2017 que l'Union européenne a commencé des formations dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne pour nos soldats. Et on a mis en place cette formation de l'EUTM qui est une formation qui a permis à nos forces d'acquérir un certain nombre de formations communes de base. Et ça a été très intéressant. Comme nous étions sous embargo, on n'avait pas les armes nécessaires pour équiper ces hommes qui étaient formés par l'EITM pour pouvoir les envoyer sur le terrain. Puisque quand le président Touadéra est arrivé, vous avez vu que les problèmes de sécurité étaient vraiment très, très, très accrus à cette période-là. La formation de l'EITM a commencé et s'est fait ressentir le besoin crucial d'équiper les hommes qui sont formés d'outils de travail, d'armes. Et l'embargo a empêché cela. Grâce justement au plaidoyer du président de la République auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a permis à la Fédération de Russie de nous aider et d'équiper nos hommes. Et comme il fallait former ces hommes à l'utilisation de ce matériel, les instructeurs russes sont venus et ont complété techniquement aussi la formation de ces hommes. Voilà pourquoi les crises qui ont eu lieu pendant la période électorale, les hommes ont montré leur efficacité avec les alliés russes et rwandais pour riposter justement à ces attaques. Alors, la décision de l'Union européenne, nous le déplorons formellement.
Une avalanche de sanctions contre Ali Dara, ça, en commençant par les États-Unis, le Trésor américain, et aujourd'hui, sur proposition de la France, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de sanctionner Ali Dara. Ça, comment vous avez déjà accueilli ça?
Le département du Trésor américain a confirmé les sanctions contre Ali Dara. Je pense qu'il y aura d'autres sanctions qui vont suivre. Et c'est quelque chose qu'on attend depuis de nos partenaires. On attend, avec les moyens technologiques qu'ils ont, avec les moyens techniques qu'ils ont, ils savent très bien comment des hommes qui sont de nationalité étrangère et qui viennent occuper des zones dans notre pays, occupent notre pays. On sait comment ils doivent savoir, ces grandes puissances, par quels moyens ils sont fournis en armes, comment une armée régulière comme les FACA, on leur empêche d'avoir des armes et les rebelles continuent régulièrement d'être approvisionnés en armes sophistiquées et de plus en plus lourdes.
Okay.
Je dis que eux, ils savent, ils ont des moyens pour savoir. Je pense que c'est dans cet état d'esprit pour nous aider qu'ils prennent ces sanctions. Et nous approuvons ce genre de démarche.
Monsieur le ministre Albert Mokpamyalo, que je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.